VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, tout d'abord les titres.
Au Niger, 5 militaires ont été tués lundi par Boko Haram dans la région de Difa, ont annoncé hier les autorités.
Le nouveau chef du dispositif Barkhane assure que les djihadistes du Sahel n'ont plus la capacité tactique de procéder à des actions d'envergure.
En République démocratique du Congo, l'opposition a appelé hier à manifester dans tout le pays le 19 septembre pour donner au président Kabila son préavis de fin de fonction.
En Syrie, la trêve semblait tenir hier, mais toujours pas d'aide humanitaire aux civils assiégés.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine et bien sûr notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
5 militaires nigériens sont morts dans une embuscade tendue lundi par des éléments de la secte Boko Haram dans la région de Difa. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités de Niamey, compte rendu de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'embuscade a été tendue à une patrouille des forces de défense et de sécurité à 65 km au nord-est de Difa par des éléments de la secte Boko Haram le lundi 12 septembre, jour de fête de Tabaski. Le bilan est annoncé à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée nigérienne, le colonel Mustapha Ledru.
Côté force de défense et de sécurité, 5 morts, 6 blessés évacués d'urgence au CHR de Difa. Côté ennemi, 30 terroristes tués, 2 capturés, une importante quantité d'armes et de munitions récupérées. La réaction de nos forces de défense et de sécurité et celle des renforts de la force bilatérale Tchad-Niger a permis de mettre hors d'état de nuire l'ennemi.
Selon le colonel Ledru, des opérations de ratissage sont en cours dans la zone. Il faut rappeler que déjà le 8 septembre dernier, un autre véhicule de l'armée nigérienne a sauté sur un engin explosif toujours dans la région de Difa, faisant 2 morts et 2 blessés parmi les militaires nigériens. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les groupes djihadistes du Sahel n'ont plus la capacité tactique de procéder à des actions d'envergure. Comprendre et contrôler une ville. Ces assurances ont été données hier à Ouagadougou par le nouveau commandant des forces françaises Barkhane. C'était à l'issue des entretiens du général François-Xavier de Voïmont avec le président burkinabé Roch Marc Christian Caboret. Précision de Jean-Roger Bion.
Le général de Voïmont a déclaré que, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, les armées des pays du G5, Mali, Mauritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso et Barkhane remportent des succès importants contre les groupes terroristes. Il a cependant reconnu que ces groupes restent dangereux comme tous les terroristes du monde. À une question sur l'apparition de nouveaux mouvements armés, notamment Peul dans le centre du Mali qui pourrait grossir les rangs des groupes djihadistes, il a répondu « L'action militaire n'a de sens qu'au service d'une avancée politique, une avancée de la réconciliation et des accords de paix ». Interrogé sur la progression de l'État islamique au Sahel, notamment au Burkina Faso, où le groupe a revendiqué pour la première fois une attaque contre un poste de douane, un douanier et un civil ont été tués le 1er septembre, le général de Voïmont a répondu que l'expansion du groupe État islamique était un phénomène mondial. On voit aussi dans cette lutte mondiale qu'au Sahel, mais aussi en Syrie, en Libye, on est capable de leur porter des coups extrêmement rudes, a-t-il indiqué. Ils peuvent faire des actions très médiatisées quelque part, mais nous vaincrons, a assuré le général français.
En Libye, les forces du gouvernement non reconnues se sont emparées hier du dernier des 4 terminaux du croissant pétrolier. Il s'agit là d'un grand revers pour le gouvernement d'Union nationale, soutenu par l'ONU. Ces installations qu'il vient de perdre sont cruciales pour l'économie libyenne.
Après 30 ans d'instabilité, la Somalie a abrité mardi son tout premier sommet régional, un motif de grande fierté pour ce pays en proie aux attaques des islamistes du groupe Al-Shabaab. Les précisions de Michel Joseph.
Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour le sommet de l'Organisation intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Parmi les participants, le président kényan Uhuru Kenyatta, son homologue ougandais Yoweri Museveni et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Également invité, le président soudanais Omar al-Béchir a fait savoir qu'il n'allait pas effectuer le déplacement. Le sud-soudanais Salva Kiir ne s'est pas rendu à Mogadiscio non plus. Mais la situation dans son pays devrait être l'un des principaux sujets des discussions de la capitale somalienne. La plupart des pays prenant part au sommet de l'IGAD contribuent des troupes à la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, forte de 22 000 soldats. La présence de chefs d'État en Somalie est une dividende nette du retour de la stabilité dans le pays, estime Francisco Caetano Madeira, le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie. La Somalie s'apprête à organiser une élection présidentielle au mois d'octobre.
Le Maroc a dénoncé hier une loi adoptée par le Congrès américain qui autorise les proches des victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre des pays comme l'Arabie saoudite. Claire Morin-Gibourg.
C'est par un communiqué des affaires étrangères que le royaume chérifien s'est exprimé. En aucun cas, les actes terroristes de certains individus ne peuvent être reprochés à leur pays d'appartenance. Et la diplomatie marocaine de rappeler que le principe de l'immunité juridictionnelle des États demeure essentiel à des relations internationales sereines. La loi Justice Against Sponsor of Terrorism a été approuvée vendredi à l'unanimité par la Chambre des représentants, 4 mois après avoir été adoptée par l'ensemble des sénateurs. Le président Barack Obama a annoncé lundi qu'il y opposerait son veto parce que le texte contredit le principe d'immunité judiciaire des États. Mais le texte pourrait cependant passer si 2/3 des élus du Congrès contestait le veto présidentiel, ce qui constituerait un camouflet pour le président démocrate. 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient des Saoudiens, mais l'implication de l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, n'a jamais été démontrée par des preuves irréfutables, selon un rapport d'enquête américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, la trêve, présentée comme la dernière chance pour sortir le pays du chaos, semblait tenir hier. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'est félicité d'une baisse significative de la violence. Mais aucun convoi de l'ONU n'était entré en Syrie depuis le début du cessez-le-feu. Monsieur de Mistura veut des garanties de sécurité pour les conducteurs et les convois. Pour rappel, l'accord prévoit l'acheminement d'une aide humanitaire aux civils assiégés.
Israël a de nouveau frappé hier soir des positions syriennes. Quelques heures auparavant, il avait démenti des affirmations de l'armée syrienne selon lesquelles elle avait abattu 2 appareils israéliens engagés dans une opération similaire. Israël dit avoir encore riposté après que 2 projectiles tirés de Syrie sont tombés en début de soirée sur la partie du plateau du Golan occupée et annexée par Israël. Il n'y a pas eu de victimes.
En Israël même, l'ancien président et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, a été hospitalisé d'urgence en soins intensifs à la suite d'un accident vasculaire cérébral majeur. Il est âgé de 93 ans. Shimon Peres est le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël encore en vie. Il est aussi l'un des grands artisans des accords d'Oslo, synonyme d'espoir de paix avec les Palestiniens, et aujourd'hui mal en point.
Présidentielle américaine, la candidate démocrate Hillary Clinton reprendra sa campagne électorale demain après 4 jours de repos en raison de sa pneumonie. C'est ce qu'a annoncé hier un porte-parole.
Pyongyang a accusé ce matin les États-Unis de précipiter la péninsule coréenne au bord de l'explosion et ce, au lendemain du survol de bombardiers américains en réponse au 5e essai nucléaire effectué par le Nord. Les 2 bombardiers supersoniques étaient escortés dans le ciel sud-coréen par des chasseurs américains et sud-coréens. Ces provocations extrêmement irresponsables des va-t-en-guerre impérialistes américains poussent chaque heure la situation sur la péninsule coréenne au bord de l'explosion, a déclaré l'agence de presse officielle nord-coréenne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Des milliers de passagers ont été bloqués après que Arik Air, la compagnie aérienne la plus importante du Nigeria, a annoncé hier avoir suspendu temporairement tous ses vols, cette interruption pouvant durer plusieurs jours. C'est la troisième compagnie privée du pays, l'un des plus vastes d'Afrique, à interrompre son trafic aérien depuis le début du mois après ses concurrents Aero et First Nation. Le régulateur ouest-africain des marchés financiers a donné son feu vert au Burkinabé Coris Bank International pour son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon le magazine Jeune Afrique, l'opération porte sur 1,25 million d'actions dont le prix d'émission n'a toujours pas été communiqué. Des bus électriques 100% énergie propre circulent désormais dans les rues de Brazzaville. Après des tests au mois de mai 2016, la mairie de la capitale congolaise a finalement donné son accord mi-août pour un lancement officiel intervenu lundi. Ces bus électriques sont développés par Blue Congo, une co-entreprise du groupe Bolloré et du fonds souverain de l'État du Qatar.
À présent, notre page sport avec Tatiana Mosso. Tatiana, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Basket, l'ailier des Oklahoma City Thunders, Mitch McGurry, manquera les 15 premiers matchs de la saison NBA après avoir été suspendu une seconde fois pour dopage.
McGurry a été sanctionné de 10 matchs de suspension après infraction aux règles antidopage. La suspension débutera après une autre sanction de 5 matchs infligés pour manquement au règlement antidopage lors d'un contrôle en juillet. McGurry, 24 ans, n'a joué que 52 rencontres pour Oklahoma City depuis son arrivée au club en 2014. La saison dernière, il n'a joué que 72 minutes pour une moyenne de 1,3 points par match. Il avait déjà été contrôlé positif une fois lorsqu'il jouait à l'Université de Michigan.
Football, le FC Barcelone pourrait encourir de nouvelles sanctions de la part de l'UEFA après le déploiement mardi de drapeaux indépendantistes catalans au Camp Nou.
Oui, c'était avant le match de Ligue des Champions entre le club Blaugrana et le Celtic Glasgow. Plusieurs milliers de ces drapeaux distribués par des associations indépendantistes ont été brandis en tribune quelques minutes avant le coup d'envoi. La diffusion de l'hymne de la compétition européenne a par ailleurs été un concert de sifflets de la part d'une partie du public, tandis qu'une bannière « Bienvenue en Catalogne » était déployée. À plusieurs reprises ces derniers mois, les instances de l'UEFA ont considéré ces emblèmes comme une manifestation politique n'ayant pas sa place dans un stade, infligeant des amendes au Barça. Le club a fait appel en juin de la décision de l'UEFA de lui infliger une amende de 150 000 euros, dont 50 000 avec sursis pour exhibition de drapeaux indépendantistes.
JO 2016, des hackers russes piratent le site de l'Agence mondiale antidopage.
Oui, ils ont même publié des renseignements confidentiels sur des athlètes américains présents au JO de Rio. L'agence a réagi après la publication de données confidentielles de 4 athlètes américains aux Jeux olympiques de Rio, dont une championne olympique par le groupe russe d'espionnage cybernétique Tsar Team, également connu sous le nom de Fancy Bear. Il s'agit de la deuxième attaque de ce groupe depuis début août contre le système de gestion et de localisation de l'agence qui lui permet d'assurer le suivi des contrôles l'antidopage des sportifs. Le Comité international olympique a aussi condamné cette cyberattaque clairement destinée à souiller la réputation d'athlète propre.
Les Africains en lice en Ligue des champions UEFA 2016-2017 et l'affiche des matchs de mercredi.
Et oui, la phase de groupe de la Ligue des champions a débuté mardi, hier. Une centaine de joueurs africains y ont pris part déjà pour être en finale de la Coupe d'Europe normalement le 3 juin à Cardiff. Et ce mercredi, la Ligue des champions opposera la Juventus Turin au Séville FC, tandis que l'émotion sera au rendez-vous pour Cristiano Ronaldo, opposé avec le Real Madrid au Sporting Portugal, son premier club professionnel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, maintenant nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition appelle les Congolais à manifester le 19 septembre devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante à travers le pays et devant les ambassades congolaises à l'étranger pour donner un préavis au président Joseph Kabila 3 mois avant la fin de son mandat. Eddy Isango a joint à Kinshasa l'ex-modérateur de la plateforme dynamique de l'opposition, Freddy Matungulu.
Si vous le convoquez par le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, vous violez la Constitution. Quel que soit le bout par lequel vous prenez cette réalité, c'est cette violation de la Constitution que nous condamnons. Et le préavis, c'est un rappel à M. Kabila pour lui dire qu'il termine son second et dernier mandat.
Mais la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée là-dessus.
Bon, la Cour constitutionnelle ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution même. La Cour constitutionnelle a simplement rappelé que le président de la République reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau président sera élu. Dans le cas d'espèce, ça veut dire que le nouveau président est élu avant le terme du mandat de celui qui est au pouvoir. Monsieur Kabila a été incapable de gérer les institutions de la République de façon à respecter cette exigence de la Constitution. Nous avons demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Nous pensons que cette question doit faire l'objet des discussions. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que la majorité présidentielle refuse d'avoir ce dialogue inclusif. Elle veut nous imposer son dictat que nous n'accepterons pas.
La frange de l'opposition qui participe au dialogue et qui a suspendu ses travaux vous a lancé plusieurs fois un appel pour que vous les rejoigniez. Aujourd'hui, cette frange de l'opposition a suspendu ses travaux.
Nous savons qu'il s'agit d'une farce de mauvais goût, parce que ce qui est sûr, c'est que cette opposition a déjà accepté le glissement. Aujourd'hui, elle est en train de faire de la surenchère parce que apparemment, le poste de Premier ministre qui lui était promis, semble-t-il, serait en train d'aller à quelqu'un d'autre. Nous sommes convaincus que demain, ils se retrouveront dans cette salle et ils vont trouver un accord avec leurs amis qui y sont encore.
Votre appel n'est-il pas synonyme des confrontations? Est-ce que vous allez dans ces sens-là? Vous ne craignez pas qu'il y ait des morts ou des dégâts?
Non, personne ne souhaite avoir une confrontation, mais c'est important. Il est important que la position, le point de vue de la population congolaise puisse être entendu. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Et je répète encore une fois de plus, nous sommes toujours demandeurs du vrai dialogue inclusif.
Freddy Matungulu, membre du Rassemblement, la grande plateforme de l'opposition congolaise, à Kinshasa. Pour rester au Congo, 2 ans et 3 mois après le massacre de Mutarule, qui a fait 37 morts et 28 blessés dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, la justice militaire congolaise a finalement rendu son verdict. Elle a prononcé à Bukavu 2 condamnations et un acquittement dans ce massacre contre les populations civiles de la communauté Bafou-Lirou. Reportage de notre correspondant Ernest Muhero.
La cour militaire a reconnu coupable les majors Kayumba et son co-accusé civil Chéri Akaungu. Le premier est condamné à 10 ans de prison pour violation des consignes et le second à 15 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. Un troisième prévenu, le capitaine Enabombi, alias Commando, a lui été acquitté par la cour. C'était à l'issue d'une série d'audiences publiques que cette cour, siégeant en matière répressive au premier degré, a organisé successivement à Mutarule, à Uvira et enfin à Bukavu depuis le 12 août 2016. Suivez un extrait du verdict de la cour lu en pleine audience par le président de la cour militaire du Sud Kivu, le colonel magistrat Armand Mukabombo.
La cour ayant pris la cause en délibéré, disant droit à la question de savoir si les prévenus Kayumba Nyerere, Enabombi Tsang, Chéri Akaunga sont coupables de faits mis à leur charge, la cour répond par oui pour Kayumba Nyerere Vénance.
oui, pour Chéri Akawungu Reimo et non pour Enabombi. En conséquence, la Cour va condamner le prévenu Kayumba Nyerere à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes. La Cour va condamner le prévenu Chéri Akayumba Reimo à 15 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre. La Cour va prononcer l'acquittement du capitaine Enabombi et va ordonner sa désemparer sa mise en liberté.
3 heures de temps après que le verdict soit tombé à Bukavu, l'information est inconnue du grand public à Mutarolé où le procès a démarré. Même des leaders d'opinion de la plaine de la Ruzizi contactés par VOA Afrique sont sous-informés. Étienne Toguera, président des jeunes de la plaine de la Ruzizi.
La population de Mutarolé n'est pas informée. C'est à ce moment-ci qu'ils sont en train de demander le résultat. C'est une surprise pour nous parce qu'on ne savait pas que ça doit se passer. Lorsque le procès a commencé, la population de Mutarolé a attendez que toutes personnes qui ont été impliquées dans les massacres soient vraiment interpellées, punies par la loi. Et on attendait que ça se passe chez nous à Mutarolé, comme ça a commencé à Mutarolé.
Après avoir pris connaissance plus tard du verdict, le président des jeunes de la plaine de la Ruzizi s'est dit insatisfait, mais appelle la population de Mutarolé à l'apaisement. Pour Toguera, l'espoir est encore permis.
Nous n'avons pas été satisfaits. D'autant plus que ce qu'on attendait pour la verdict, c'est pas ça ce qui a été fait. D'autres gens qui ont été invités par la Cour comme des renseignants, comme des témoins, ils n'ont pas eu le temps de se présenter pour témoigner ou pour être auditionnés comme des renseignants. C'est ce qu'on attendait. Et maintenant, nous comme victimes, ça nous a donné un signe de désolation. Et nous avons aussi, il faut regretter, certains prévenus n'ont pas été sécurisés. On avait déjà commencé. L'audience devra être protégée et nous demandons toujours à la population de Mutarolé d'apaiser leurs émotions. Nous pouvons toujours espérer. Alors, je demanderai à la communauté internationale de voir comment ils peuvent s'impliquer vraiment pour faire des correctifs par rapport à ce qui a été fait par notre justice.
Face d'une part à l'insatisfaction manifestée pendant l'audience par la défense par rapport à ses deux clients condamnés et d'autre part le ministère public insatisfait par rapport à l'acquittement du capitaine Enabombi, le colonel magistrat Armand Mouka a rappelé aux deux parties qu'elles ont jusqu'à 5 jours pour interjeter appel auprès de la haute cour militaire. Pour rappel, sur les 7 prévenus poursuivis initialement dans ces dossiers, seuls 3 étaient présents. Un 4e est décédé durant la procédure et 3 autres sont en fuite. Rappelons que la localité de Mutarolé est située dans la plaine de la Ruzizi, à une 50aine de kilomètres au sud de Bukavu. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Les veuves et enfants de soldats camerounais morts dans la lutte contre Boko Haram affirment être négligés par leur gouvernement. Plus de 200 soldats sont morts dans la guerre, laissant des centaines de veuves et orphelins dans une situation financière pour le moins précaire. Le gouvernement camerounais a souvent pourvu à leurs besoins, mais il souhaite davantage. Par exemple, certains voudraient apprendre à pêcher. Reportage de Moki Edwin Kinzeka.
La fanfare militaire annonce une grande cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins. Parmi ceux qui ont reçu les dons, des matériels didactiques, Sylvie Ongene, âgée de 18 ans, orpheline, en est une.
Il y a un sentiment de non-rejet, de non-abandon. Parce que vous savez, après que papa soit tombé au front, ça fait très mal. Donc, quand la grande famille du corps militaire nous aide ainsi, donc c'est une grande joie, c'est beaucoup d'émotions. Et en plus, maman n'étant pas salariée, donc c'est une mélangée, donc ça pourra aider pour la prochaine année académique.
Derrière cette proclamation de satisfaction, se cache la colère de veuves et orphelins. Marie-Noël Bitima, qui a perdu son fils il y a 2 ans et qui doit prendre soin des orphelins, demande le soutien du gouvernement.
Non, je m'occupe des enfants comme ça. Moi, je ne sais même pas ce que je peux vous répondre. Parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Un enfant de 26 ans qui part à Wapou ne peut jamais rentrer. Il a laissé un garçon et une fille. C'est très bon. Mais si je verrai alors encore un jour mon enfant, Je ne le reverrai. Je ne le reverrai plus jamais. Plus jamais.
Le Cameroun par son ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, a toujours rassuré les proches des défunts du soutien du gouvernement.
À ceux de nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main pour la défense de notre patrie. Au nom du chef de l'État, je voudrais dire à leurs âmes, à leurs familles, ainsi qu'à leurs proches, que leur sacrifice ne sera jamais vain.
Pour ces veuves et orphelins, l'attente est très longue. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Présidentielle américaine 2016, le président Barack Obama a battu campagne hier à Philadelphie pour la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a pris quelques jours de repos à cause d'une pneumonie. Dans le même temps, la controverse concernant ses emails, quand elle était secrétaire d'État, a été relancée hier au Congrès. Nous faisons le point avec Lionel Gahima.
Oui, Idrissa, comme les démocrates avant lui, le président Obama a vigoureusement défendu Mme Clinton, tant du point de vue de la transparence de sa campagne que de son aptitude à diriger les États-Unis.
I believe there has never been a man or a woman more qualified than Hillary Clinton to serve as our president.
Le chef de l'exécutif américain affirme n'avoir jamais vu un homme ou une femme politique mieux qualifiée que Mme Clinton pour occuper le poste de président. Elle a été accusée de tout ce que vous pouvez imaginer et a fait l'objet de plus de critiques injustes que qui que ce soit, a-t-il lancé lors du meeting de Philadelphie mardi. Barack Obama a accusé les républicains d'attiser la colère et la haine. Le président Obama, qui en était à sa troisième sortie en faveur de Mme Clinton, est perçu comme un atout majeur pour la candidate démocrate. Cette dernière a besoin de cet appui dans la mesure où l'écart dans les sondages se resserre avec le républicain Donald Trump. Réagissant à la sortie de Barack Obama en faveur de Mme Clinton, l'équipe de campagne du républicain Donald Trump a publié un communiqué laissant entendre que le chef de l'exécutif devait s'atteler à résoudre les problèmes du pays, mais préfère battre campagne pour la candidate démocrate.
Outre ses ennuis de santé, Hillary Clinton continue de faire face à des questions concernant l'utilisation d'un serveur privé pour ses communications quand elle dirigeait le département d'État, Lionel.
En effet, Idrissa, l'enquête initiée par une commission de la Chambre des représentants du Congrès dirigée par les Républicains fait son chemin. Mardi, trois personnes ayant connaissance de ce dossier et devant témoigner devant cette commission ne l'ont pas fait. Ainsi, Brian Pagliano, un ancien informaticien du département d'État ayant installé le serveur de Mme Clinton, ne s'est pas présenté à l'audition. Dans une lettre au président de la commission, l'avocat de Pagliano a invoqué le droit constitutionnel de son client de garder silence. Deux responsables de Pledge River Network, compagnie basée à Denver dans l'État du Colorado ayant assuré l'hébergement et la maintenance du serveur privé de Mme Clinton, se sont présentés à l'audition, mais ont eux aussi invoqué le droit constitutionnel de ne pas témoigner. Des attitudes qui ont peu de chances de décourager les législateurs républicains décidés à aller au-delà de cette affaire, surtout en cette période électorale.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on se penche sur l'accès à Internet en période électorale. De la campagne américaine qui inonde les réseaux sociaux aux coupures de ces derniers à l'annonce des résultats d'un scrutin, qu'ils soient tchadiens, congolais ou gabonais. Deux poids, deux mesures, nous explorerons les limites de la toile, les excès ou les suspensions. Que disent les législations africaines, américaines ou encore européennes? Qui a le droit ou non de couper l'accès au réseau? La démocratie passe-t-elle par le web? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.